Dieu veut nous rencontrer. Et je vais d'abord vous parler de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est écrit ceci. Tu mettras, alors c'est, je vous explique un peu le contexte. Moïse monte sur la montagne. Il arrive en haut, je le fais bien. J'ai appris hier qu'il fallait que j'amplifie mes gestes. Donc Moïse monte sur la montagne. Et là, il passe du temps devant Dieu. Et Dieu lui montre un endroit qu'il est chargé de bâtir, parce que c'est un lieu où Dieu va vouloir rencontrer les hommes en réalité. Donc il dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Je vous rassure tout de suite, c'est du charabia, mais on va éclaircir ça, éclairer ça par un petit schéma, par un petit dessin ensuite. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Et je voudrais vraiment que vous soyez interpellés par ces mots. C'est là que je... C'est bizarre d'ailleurs, comment Dieu lui parle. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et dans un autre texte, on a un autre livre... du Pentateuque, de l'Ancien Testament, il est écrit que lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Moi, j'aime beaucoup ça parce que lorsqu'on chante voilà, « Je viens pour te rencontrer, je viens pour entendre ta voix », je viens pour te parler. Je pense que profondément, Dieu est un être relationnel. D'ailleurs, il nous a créés comme ça, nous sommes créés à l'image de Dieu, pour vivre en relation les uns avec les autres. Et dans le désir de Dieu de mettre les relations, vous allez voir qu'il avait demandé, donc c'est une image de ce que je viens de vous dire, de l'arche avec le propitiatoire. Et au-dessus, vous voyez les deux anges qui couvrent les ailes du propitiatoire. Et là, je crois que j'ai le droit de... Ouais. Là, vous imaginez donc Moïse, ici à genoux, en train de prier, et du milieu là, ici, entre les deux chérubins, il lui dit, Dieu est en train de venir le rencontrer, lui parler. Moïse exprime ce qu'il a sur le cœur, Dieu exprime ce qu'il a, et il est écrit aussi, c'est là que je donnerai des ordres pour mon peuple, que je le dirigerai. L'accès, il faut savoir que l'accès à cette arche était régi par des règles très contraignantes. Mais vraiment, je ne vais pas rentrer là-dessus, parce que ce serait trop long à vous expliquer. Mais y aller là, il fallait avoir le courage. Parce que si on n'était pas préparé, il paraît qu'on pouvait même en mourir. Parce que la présence de Dieu était tellement forte et sainte que les hommes qui s'approchaient et qui n'étaient pas purifiés pouvaient en mourir. Voilà ce que dit. Mais en réalité, ça là, je ne vais pas rentrer dans un débat théologique, mais ça, ça représente Jésus-Christ. Et on va y venir. L'arche, elle montre quelque chose d'important. C'est que Dieu résidait dans le lieu très saint. Là où se trouvait l'arche, là résidait Dieu, ou l'Éternel, peu importe comment on l'appelle. Mais Dieu résidait dans ce lieu. Et Dieu, il avait une envie, c'est de communiquer et vivre une relation avec les hommes. Et parce qu'il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Tout homme ou toute femme qui a rencontré l'homme ou la femme de sa vie vous le dira. La rencontre, lorsqu'on se rencontre, on ne reste pas indemne. Moi, le jour où j'ai rencontré ma femme sur les bancs du collège, je peux vous dire que ça a changé ma vie, la preuve, parce qu'on est mariés maintenant. Mais ça... une rencontre avec quelqu'un, et donc vous imaginez avec Dieu, ça change la vie des gens. Le troisième des choses que je voulais vous dire, c'est que Dieu veut conduire. Pourquoi Dieu veut-il conduire à votre avis et veut-il diriger notre vie afin que nous ne marchions pas à tâtons? Voilà à quoi comparaîtrais-je une personne qui marche sans Dieu. C'est une personne qui est complètement aveugle. Elle marche à tâtons. C'est-à-dire qu'elle agit, elle est dans la réaction continuelle. En réalité, une personne aveugle vous dira, d'ailleurs si elle n'a pas son bâton, elle est comme ça, elle tombe sur un obstacle, elle contourne l'obstacle, elle reprend sa route. Et le danger, et vous connaissez un peu le danger de marcher lorsque nous ne voyons pas, j'ai fait l'expérience cette nuit où j'ai failli, je me suis levé pour aller dans un endroit dont vous vous imaginez, et j'avais laissé mes chaussons dans le chemin qui me menait vers la sortie de la chambre. Et j'ai failli me prendre la porte comme ça sur le coin parce que j'ai marché sur mon chausson, je marchais à tâtons dans l'aveuglement et j'ai failli me prendre la porte et ne pas être là ce matin parce que visiblement, j'étais pressé d'aller dans l'endroit où il fallait aller. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu sait et il voit les personnes qui marchent aveuglément. Et il sait que ça engendre toujours des dégâts. Et ce que Dieu veut, en fait, lorsqu'il le montre et qu'il conduit quelqu'un, il veut lui montrer une façon et là où il doit se diriger. C'est comme s'il plaçait une personne sur la montagne et c'est comme si la personne, Dieu, est en train de dire « Voilà où tu vas aller, tu vas passer par là, 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 et tu vas atteindre ce but. » En réalité, quand Dieu veut parler à une personne, il veut toujours lui montrer prophétiquement, c'est ce que dit la Bible, là où Dieu veut l'amener. Et beaucoup de personnes marchent à tâtons et elles ont besoin d'avoir un but dans leur vie et de savoir là où Dieu veut les amener. Alors dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'arche. Vous avez vu une arche ici ? Et vous savez où se trouve l'arche ? Maintenant, elle se trouve là. Quiconque croit que Jésus est venu sur la terre. Quiconque croit que Jésus le pardonne de ses péchés, que par Jésus il est pardonné des péchés, quiconque croit cela, alors il est écrit que Dieu vient résider dans notre cœur. Et dans le Nouveau Testament, vous ne voyez plus d'arche, parce qu'elle n'a plus lieu d'exister matériellement. Elle a juste besoin d'exister dans la vie de quelqu'un. Et il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. En réalité, quand je chante, j'entre dans le lieu du Dieu très saint, je n'entre pas dans une église, je n'entre pas, parce que ça c'est le système religieux qui vous fait croire cela, c'est notre éducation judéo-chrétienne, catholique, ou peu importe, qui nous fait croire que nous avons besoin d'aller dans un endroit pour prier et adorer. D'ailleurs, Jésus dit à la Samaritaine, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer, mais ce que l'Éternel recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Donc quand vous chantez « J'entre dans le lieu du Dieu très saint », en réalité, vous allez rejoindre Dieu au fond de votre cœur pour que vous puissiez avoir un temps de reconnaissance, d'adoration, etc. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Je suis clair ? Dites-le, hein, parce que c'est vraiment important. L'arche était un lieu d'échange. L'arche était un lieu où Moïse disait, parce que conduire tout un peuple aussi nombreux, ça lui a donné des cheveux blancs. Et c'était aussi un lieu d'écoute, un lieu de prière, un lieu de conseil. Et Jésus est devenu celui par qui nous pouvons nous tenir devant le Père. Autrement dit, si tu crois qu'aujourd'hui ta vie est une vie où tu marches à tâtons, sache que tu as besoin de recevoir l'arche dans ton cœur. Et cette arche, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Et beaucoup de gens disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Ben moi, je l'ai fait, j'ai marché sans Dieu pendant tout un moment. Et je peux vous dire que je me suis ramassé... Jusqu'à mes 27 ans, je n'ai pas arrêté de me ramasser jusqu'au jour où je l'ai rencontré. Et ce que je crois, c'est que auprès de notre Seigneur, c'est ce que dit la Bible, Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai accès et j'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec assurance. Quelle implication pour moi ? Ben, ça veut dire que Dieu veut prendre place dans ma vie. Et la question que je vous pose et que je me pose souvent, quelle place je donne à Dieu dans ma vie ? Et c'est une question essentielle. Parce que Dieu ne veut pas un petit recoin. Un jour, je priais et je disais au Seigneur, tu sais, Seigneur, je te donne ma vie. Et le Seigneur m'a répondu, est-ce que tu me donnes tout ? Est-ce que tu me donnes tout, Bruno ? Et c'est une question essentielle à laquelle nous devons répondre. Est-ce que nous donnons tout au Seigneur ? La deuxième chose, la deuxième application, c'est qu'il veut communiquer avec mon esprit. Il veut communiquer avec moi. Il veut me rencontrer. Il veut vous rencontrer. Il veut vivre une relation avec vous. Et la troisième application, c'est qu'il veut conduire ma vie vers les promesses. Dieu dit qu'il y a une promesse pour tous ceux qui croient en lui. Nous sommes devenus enfants de Dieu le jour où nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur. Et il veut conduire notre vie. Il veut nous amener vers des chemins droits. Il veut nous amener vers une vie qui soit conforme à la sienne. Il veut vraiment que nous puissions être heureux. Et vous savez, ce n'est pas les biens matériels qui rendent les gens heureux. Ce n'est pas partir en vacances qui te rendra heureux. Si, ça te rend heureux sur le coup. Mais ce qui te rend heureux vraiment, c'est d'être en relation avec Dieu. Alors, que faisons-nous du temple ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, je résume, l'arche n'existe plus, mais dans notre cœur, Christ vient le jour où nous donnons notre vie au Seigneur, et là, il demeure en nous, et c'est par lui que nous avons accès au Père, entre les deux chérubins. Là, vous imaginez un peu ce que ça peut représenter. Et dans l'Ancien Testament, c'est un truc vraiment que j'ai découvert cette semaine. Vous savez, il s'est passé 500 ans entre le moment où Moïse a construit l'arche et le moment où l'arche est arrivée dans le temple de Jérusalem qui avait été construit par Salomon. 500 ans! C'est le nombre de siècles et le nombre d'années qui correspondent à la réforme. Et pendant 500 ans, cette arche, elle a vécu plein d'aventures. Elle s'est retrouvée dans des situations rocambolesques. Il s'est passé par exemple un moment où un truc vraiment bizarre, cette arche a passé les eaux du Jourdain en même temps que le peuple entrait en terre promise et les eaux du Jourdain se sont arrêtées nettes. Et puis, il y a aussi des moments glorieux, mais aussi des moments de tristesse par rapport à cette arche. Et la question que je vous pose ce matin et que je me pose, moi, en ce moment, c'est qu'est-ce que je fais de cette arche dans mon cœur ? Les diverses aventures de l'arche après sa fabrication. Alors, elle est allée dans le désert, elle est passée le Jourdain. Et puis, un jour, elle est placée à Silo. Silo, c'est une ville d'Israël, après la conquête du pays promis. Il y a eu à Silo une époque où Dieu ne parlait plus. Lorsque vous lisez le livre de Samuel, dans les premiers chapitres, il est dit, à cette époque, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Tiens, c'est quand même bizarre. Je viens de vous dire que le lieu de rencontre, alors que là, c'était un lieu qui devait manifester la présence de Dieu, qui devait manifester une sorte de relation, de communication entre Dieu et les hommes. Là, la parole de l'Éternel est rare, c'est-à-dire que Dieu s'est mis à ne plus parler ou de parler que de temps en temps et les visions n'étaient pas fréquentes. Que s'est-il passé dans l'arche ? Que s'est-il passé par rapport à l'arche ? Je vais vous expliquer. Il y a deux hommes. Alors, je vous explique le livre de Samuel au début. Au début du livre de Samuel, il y a l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle vient pleurer tous les ans dans le temple. Et elle vient demander à Dieu vraiment un enfant. Elle lui dit, vois ma misère, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Et vous savez que l'infertilité à cette époque-là était reçu, était compris comme une malédiction sur une personne. Donc cette personne se sent maudite, elle se sent rejetée, parce que ne pas avoir d'enfant à l'époque, c'était quelque chose. Et puis, elle va tous les ans chercher, le Seigneur le dit, et exprimer sa peine. Mais à la même époque, il y avait un sacrificateur, donc un prêtre qui était censé rentrer une fois par an devant l'arche. Et là, il avait deux fils. Il y a Phinéas et Ophni. Ophni, ça veut dire prompt à déshonorer. Voilà ce que signifie son nom. Et il prenait, ces deux hommes prenaient ce qui était destiné à Dieu. Vous savez, dans le temple, on amenait des belles choses. On amenait à manger, etc. Ils piquaient tout pour eux. Ils mettaient tout dans leur poche. Et en plus, lorsque des femmes venaient pour adorer, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils couchaient avec elles. C'était terrible ce qui était passé. Et on comprend un peu ce que ces deux hommes faisaient. Ça fait taire Dieu. Dieu s'est mis à ne plus parler. C'est pourquoi il est écrit qu'à l'époque, les visions étaient peu fréquentes et que la parole de l'Éternel était rare. Parce que Dieu dit, comment moi puis-je parler alors que ces hommes font le contraire de ce que je leur demande ? Et Dieu s'est attristé. Et Dieu s'attriste. Parce que lorsqu'il voit des personnes qu'il veut mettre en relation avec lui et qui font le contraire de ce qu'il lui demande. Et Dieu est triste. Et Dieu dit, mais vais-je trouver quelqu'un qui fera cela ? Et vous savez ce qui se passe ? C'est que cette femme qui vient prier tous les ans dans le temple, elle finit par être enceinte parce que Dieu lui dit, et Dieu lui donne d'avoir un enfant. Et cet enfant, elle lui dit, ben, si Dieu, tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à toi. Et cet enfant le conduit dans le temple. Et à travers Samuel, il s'appellera Samuel, ce sera un grand prophète. Et ce prophète va devenir un homme qui va conduire le peuple. De nouveau, Dieu va parler. De nouveau, Dieu va montrer des visions. Et de nouveau, Dieu va conduire. Parce que à travers un petit homme qui n'était pas destiné à vivre, dont les hommes avaient dit, lui ne vivra jamais, elle n'aura jamais d'enfant, cette femme, alors qu'il était amené à être rien du tout. Dieu prend ça, il transforme l'infertilité en fertilité, il transforme la mort en vie, il transforme la surdité en écoute, il transforme le fait d'être muet en pouvoir parler. Et Dieu rétablit ça à travers un petit garçon. Il va chercher ce petit garçon, il le prend, il dit, moi je veux communiquer avec les hommes et j'irai chercher ce petit garçon. Et c'est ça la grâce de Dieu, parce que d'aucuns d'entre nous, nous pouvons dire que nous faisons attention au temple. Mais Dieu, à travers son Fils, nous reconnecte avec lui et nous permet d'être en communion avec lui. Alors Dieu s'est dit, j'honorerai celui qui m'honore. Écoutez ça. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous savez ce qui est arrivé aux deux fils du sacrificateur Élie, qui couchait avec les femmes et qui prenait la nourriture qui était apportée dans le temple, ils moururent. Et vous savez ce qui est arrivé à ce petit garçon qui s'est mis à écouter Dieu et à vouloir l'honorer. Il fut honoré. Il devint un grand prophète, un grand juge en Israël. Dans une période aussi sombre où la parole était rare, Dieu prépara et leva Samuel pour être son porte-parole, son prophète. Il voulait rétablir avec son peuple et ses enfants une vraie communion. Et je veux vraiment vous dire ça ce matin. Dieu veut rétablir une relation avec vous. Il veut communiquer avec vous. Il veut que vous puissiez entendre sa voix. Et comme je vous le dis, ne cherchez pas à travers un pasteur, un prêtre, qui que ce soit, ce que Dieu veut vous dire. Oui, il y a des dons dans l'Église, mais Dieu peut vous parler, il veut vous parler directement. Il veut vous permettre d'écouter sa voix, il veut vous permettre d'épancher un peu ce qu'il y a dans votre cœur, parce que Dieu veut faire cela. Ce n'est pas uniquement, il n'y a plus de sacrificateur, un seul sacrificateur qui agit. Maintenant, la Bible dit que je peux rencontrer Dieu là, parce que je suis moi-même un sacrificateur pour Dieu le Père. Et Samuel va rétablir toute chose et remettre son cœur à la première place, son Dieu à la première place. Il avait compris ce que Dieu voulait. C'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Et Dieu veut nous rencontrer là. Dieu ne veut pas nous rencontrer à travers un système religieux. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le système qui nous fait rencontrer Dieu. C'est Jésus-Christ, mort pour mon péché. C'est Jésus-Christ, cette arche propitiatoire, c'est Jésus-Christ par lequel je peux rentrer dans la présence de Dieu qui me permet de recommuniquer avec lui. Vous remarquerez que je ne vous ai parlé ce matin d'aucune religion parce que Jésus a combattu le système religieux, mais il a rétabli la relation. Père, il le dit dans sa prière, je leur ai donné ta gloire. Je leur ai tout donné pour qu'ils puissent être un ensemble. Je leur ai tout donné pour les reconnecter avec toi. Voilà le but de Jésus, c'est de reconnecter les hommes avec le Père. Et nous, Dieu est-il celui avec qui nous vivons jour après jour? Est-ce qu'on lui laisse le soin de gouverner entièrement nos vies, nos foyers, nos églises? Prosternons-nous devant lui. Je voudrais que vous puissiez vous souvenir de l'image de l'arche. Et j'aimerais que vous puissiez vous souvenir comment Moïse, qui fut un grand homme de Dieu, est venu devant chaque jour. Il allait devant Dieu, il s'agenouillait et il parlait avec le Seigneur entre les deux chérubins. Vous avez remarqué le peu de place qu'il y avait entre deux? Avez-vous remarqué le peu de place? Je voudrais revenir, attendez. Je veux qu'on puisse regarder ça, c'est vraiment important. Regardez le peu de place qu'il y a entre deux. Vous savez ce que dit la Bible? Étroit. Large est le chemin qui mène à la mort. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Ne cherche pas Dieu à travers quelqu'un d'autre ou autre chose que Jésus-Christ. C'est à travers lui que tu trouveras. Et cette étroitesse, enfin cet espace restreint, il me parle aussi de mon incapacité peut-être à tout voir, à tout comprendre, à tout réaliser. Des fois, je me dis, Seigneur, mais comment moi pourrais-je atteindre ton cœur? L'espace est si petit, Seigneur. Et le Père me dit, mais Bruno, c'est moi, je viens te rencontrer de l'autre côté. C'est entre ces deux-là que je passerai et que je viendrai te voir. Vous savez, je crois que c'est cela que nous avons besoin tous les jours de notre vie. Ce n'est pas d'argent que nous avons besoin. Ce n'est pas... Bien sûr qu'il en faut de l'argent, hein, on s'entend. Je n'ai pas besoin de biens matériels, mais combien il est important que cette arche, que Jésus-Christ soit celui par lequel le Père puisse me réconcilier avec lui et parler avec lui. Et je termine par le psaume 132 qui dit ceci, qui résume bien tout ce que je viens de vous dire. Lève-toi, Éternel. Parce que vous savez que c'est pas la gloire de Dieu ne peut pas se contenir dans un cœur. C'est une grâce que Dieu fait. Lève-toi, Éternel, et viens à ton lieu de repos. Toi, et l'arche de ta majesté. Et si je traduisais à la mode du Nouveau Testament, lève-toi au Père. Viens ici dans ce lieu de repos, toi et ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je laisse ça sur votre cœur. Je demande, Père, ce matin, que cette prière atteigne les cieux et qu'elle redescende dans chacun des cœurs pour que nous puissions laisser la place à Christ, à Jésus-Christ, notre arche, le tabernacle, le propitiatoire. Père, un temple sans arche n'était pas un temple, tu nous l'as fait comprendre. Parce que lorsque l'arche a été retirée, la gloire a été retirée. Et je prie ce matin pour que tu amènes nos cœurs à comprendre cela. Que la chose la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est que cette arche, c'est que Jésus-Christ vienne dans notre cœur, Seigneur. Et ce matin, je prie, Père, par Jésus-Christ, je viens entre les chérubins et je viens demander que cette grâce que tu veux accorder soit manifestée, concrétisée dans chacun des cœurs ce matin, de ceux que tu voudras bien, de ceux qui voudront bien te recevoir. Et je prie pour cela, Père. Je prie pour que les hommes, les êtres humains, que cette génération puisse comprendre que tu veux les attirer à toi. Et je te le demande par Jésus-Christ. Je te le demande. Je crois vraiment, Seigneur, que tu es mort sur la croix. Je crois vraiment que tu es mort pour mes péchés, pour nos péchés, et que tu veux nous ramener dans une vraie relation avec ton Père. Et je crois vraiment que le sang qui était sur l'arche, sur le propitiatoire, couvre cela, Seigneur, qu'il me permet vraiment d'être en relation avec toi. Et je te loue pour cela, Seigneur, parce que ton œuvre est parfaite, parce que je n'ai plus de contraintes, si je puis dire, comme dans l'Ancien Testament. Maintenant, j'ai libre accès par Jésus-Christ à la présence de mon Père dans les cieux. Alors je te loue pour cela, Seigneur, et je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.